Alors bonjour à tous, donc Pierre m'a présenté avec le beau titre de conseiller stratégique pour la pédagogie, ça fait toujours bien, mais mon vrai métier c'est quand même d'être prof d'université à Lyon 1, c'est un métier que j'exerce toujours, hein, puisque je suis que à 60% au ministère, enfin 60, ça se discute, on a un total d'un peu supérieur à ça, voilà. Mais je suis prof à Lyon 1, et j'ai été, je vois qu'il est parti bien sûr, j'ai été VPCVU dans une autre vie, et j'ai fait une évaluation croisée, et je vous rassure, ça s'est bien terminé, enfin... Je suis plus en charge dans l'université, mais rassurez-vous, les collègues en face ont été bienveillants et j'espère que nous on l'a été. Mais voilà, on est bien dans la logique, hein, que l'auto-évaluation, hein, je déborde sur mon sujet, mais c'est vraiment pour s'améliorer, c'est pour soi. Mais je dis ça, je insiste là-dessus, parce qu'on va retrouver un petit peu dans ce que je vais dire dans l'approche par compétences. D'ailleurs, pourquoi ? Alors, bien sûr, on vous a dit, l'université va se lancer dans cette démarche-là, etc., c'est dans le NCU, mais à votre avis, pourquoi on se lance dans une démarche par compétence ? Qu'est-ce que vous en attendez, vous, comme ça, pourquoi vous lancer dans cette approche-là ? Je traduis, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu, parce qu'on nous l'impose. Alors, ben, oui, je parlerai d'aspect réglementaire. Je savais qu'on commencerait par ça. Je savais que ce serait la première réponse. D'accord ? Donc voilà, avoir des diplômes qui ont du sens, qui ont un sens pour l'insertion professionnelle, pour la formation continue. Alors, c'est pas la même chose. Vous avez dit, j'aime bien ce petit lapsus ou rectification que vous avez fait, parce que pour la formation continue, et puis vous avez dit, il faut la formation tout au long de la vie. Oui, pour la formation tout au long de la vie, parce que sinon, on pourrait se dire, c'était que la formation continue. Bon, je sais pas la proportion d'entre vous qui interviennent en formation continue, c'est sans doute peut-être assez faible, je dis n'importe quoi, ça va dépendre des composantes, mais c'est peut-être que 10% d'entre vous. Or, en fait, ça va bien concerner la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire la formation initiale et la formation continue. Donc, merci pour cette reprise. Voilà, question d'ossimologie finalement. Oui, quand on a un étudiant à 9,80, bon, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ? Voilà, donc peut-être ça peut résoudre ça. On parle là de compensation, oui, donc en fait c'est très lié à ce que vous disiez, hein, parce que 9,80 ou la compensation, c'est un peu la même chose. Finalement, est-ce qu'il mérite le diplôme ? Ou est-ce qu'il mérite l'UE, l'ensemble d'UE ? Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, même sur on nous l'impose. Et quoi d'autre ? Moi, je vois bien rajouter des choses, mais je sais pas moi qui... Encourager la VAE, oui, bien sûr. Donc c'est là aussi dans l'idée de formation tout au long de la vie. Ok, c'est un processus particulier d'acquisition du diplôme, mais un outil d'orientation. Oui, c'est une question de lisibilité du diplôme, enfin aussi parce que ça ait du sens, oui, ben finalement là aussi, hein, que ce soit pour l'orientation ou pendant le cursus, avoir du sens, savoir un peu ce qu'on va faire, vers quoi on va. En fait, c'est un peu l'aspect, intéressant, l'aspect multidisciplinaire d'une compétence, est-ce qu'elle s'acquiert dans une UE, est-ce qu'elle s'acquiert dans un ensemble pluridisciplinaire. Voilà, bon, on va parler un petit peu de tout ça. Bon, je peux rajouter des choses, mais ça va peut-être venir. Oui, bah, pour l'insertion professionnelle, oui. Oui, bien sûr. Bah, vis-à-vis des entreprises aussi, oui, parce qu'on forme... Pas que des collègues, hein, encore que les collègues, il faut bien qu'ils soient un peu compétents aussi. Mais ok. Voilà, donc on va un peu traiter de tout ça. Voilà, donc quelques éléments contexte. Vous dites, on nous l'impose. Alors vous allez voir plein de diapos antipédagogiques au début, c'est-à-dire celles qui sont écrites petit et tout, mais vous les aurez. Donc en fait, je sais, je fais surtout pas ça quand je suis dans un amphi, mais je dis que... Voilà. Pour des collègues, ça allait aller. Alors, un contexte international, rapidement. Bon, on est dans une grande période de transformation. Alors, j'ai pas indiqué massification, incursion du numérique, mais la massification, elle arrive un peu dans tous les pays. C'est des attentes sociétales, exigence de performance, de rapidité, d'adaptabilité. Imprévisibilité de l'évolution des métiers, la flexibilisation du travail, oui, bien sûr. Je parlais de massification, mais bien sûr, qui dit massification dit que les publics sont de plus en plus hétérogènes, et ça, vous le savez bien, vous le vivez bien dans les amphis, et puis c'est apprendre tout au long de la vie, hein, et donc savoir gérer son employabilité sur le long terme, revenir en formation, okay, la question de la FTLV. Et donc ça, bien sûr, ça appelle des évolutions de notre manière d'enseigner. qui montre ce que le monde économique estime comme étant en 2020 les principaux éléments pour s'insérer, hormis la connaissance de son domaine, bien sûr, hein, si je veux être chef de chantier de construction de route ou si je veux être juriste, ok, c'est pas la même chose, mais pour s'insérer, donc être capable de résoudre des problèmes complexes, la pensée critique, la créativité, est capable de piloter des gens, de manager des gens, de se coordonner avec d'autres métiers éventuellement, et puis etc. Vous voyez, donc dans un ordre décroissant. Donc tout ça, ça fait partie à côté des compétences disciplinaires, du fond disciplinaire, je veux dire, pas des compétences, des fonds disciplinaires. On doit aussi développer tout cet ensemble de compétences. Donc ça, c'est ce qui est admis un peu dans tout le contexte international. Si on réduit un petit peu, on regarde du côté européen, dans quoi on est engagé, des fois sans le savoir, des fois depuis longtemps, hein, le processus de Bologne, c'est quand même depuis 1998, c'est 48 pays, donc c'est beaucoup plus large que l'Union européenne. Donc dans cette démarche, c'est quoi le processus de Bologne? C'est une démarche de qualité, de lisibilité, d'attractivité des formations du supérieur. Ok, si vous avez commencé vos études au Danemark et vous voulez continuer en France, passer un semestre ou un an, faut quand même que vous ayez une référence pour savoir ce qu'est le contenu des diplômes au Danemark et le contenu des diplômes en France, et vous, si vous allez pouvoir continuer. Et si vous regardez simplement des intitulés du E, je vais prendre dans mon domaine, vous savez, quand on regarde, j'ai été longtemps responsable d'une licence, l'UE enzymologie 2. Je suis pas sûr que le UE enzymologie 2, ça dise beaucoup, ni même d'ailleurs à l'université de Caen, de savoir ce qu'est l'UE enzymologie 2 de Lyon 1. Mais alors en plus, si vous voulez aller vous poursuivre vos études en Azerbaïdjan, qui fait partie de l'espace de Bologne, ça va pas aider beaucoup si on traduit ça simplement comme ça par enzymologie number 2. Okay. Donc employabilité, mobilité des diplômés et des étudiants en cours de formation, c'est bien ça le processus de Bologne. Et donc, pour aller très vite dans la construction de ça, ça s'est mis en place parallèlement avec un réseau des agences de qualité. Tout à l'heure, je ne savais pas qu'on allait en parler ce matin. On parlait de l'HCRS. Et donc, il faut qu'il y ait en même temps de cette définition des diplômes, hein, une agence qui permette de dire, voilà, ça répond à des critères de qualité qui permettent de dire, voilà, en Europe, on est à peu près au niveau d'un standard, une licence, un bachelor, pour parler du reste de l'Europe, c'est à ce niveau-là, ça correspond à ces types d'insertion professionnelle derrière. Et donc, harmonisation des cadres européens de certification pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Et ça a commencé, peut-être vous avez jamais entendu parler des descripteurs de Dublin, mais cette notion de compétence, donc ça date de 2002, de ce qu'on appelle les descripteurs de Dublin, avec derrière des résultats d'apprentissage. Et vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre vraiment au cœur de cette approche par compétence, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez que le diplômé soit capable de faire? C'est les learning outcomes. Et c'est quelque chose qui, des fois, nous, quand on parle du processus de Bologne, si je vous avais interrogé, souvent vous m'auriez dit, c'est les ECTS, par exemple, c'est la semestrialisation, c'est les ECTS. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les ECTS, hein? Souvent, nous, on l'a traduit, c'est les coefficients. Finalement, une UE à 3 crédits, elle vaut moins qu'une UE à 6 crédits. Non, ça c'est un détail. Mais derrière des ECTS, il y a des objectifs d'apprentissage. Il y a une charge de travail pour l'étudiant en moyen. On dit que c'est 25 à 30 heures. Voilà, c'est ça qui est au cœur du processus de Bologne. J'ai mis une diapo derrière qui essaie de vous montrer ce qui est... On va pas lire tout ça, je vais prendre une ligne par exemple, hein, vous dire par exemple c'est quoi. C'est descripteur de Dublin, donc c'est vieux, c'est déjà 2002. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment rentré complètement dans les mœurs? Pas complètement. Vous voyez, ça définissait cinq critères, connaissance, compréhension, application des connaissances, analyse critique, communication et autodidaxie. Vous voyez, ça décrit, donc depuis 2002, pour des diplômes de premier, deuxième, troisième cycle. Hein. Par exemple, si on prend en communication, la capacité à communiquer à des spécialistes comme à des profanes, des informations, des idées, des problèmes, des solutions. On communique simplement des idées, des problèmes et des solutions. Au deuxième cycle, c'est la capacité à communiquer à des spécialistes, comme à des profanes, les fondements des connaissances cette fois-ci. C'est pas simplement on a une idée. Et puis, au niveau troisième cycle, c'est la capacité à communiquer, mais cette fois-ci, dans une communauté de chercheurs ou d'experts. Donc le public, voilà, a changé. Donc voilà, vous pourriez prendre tous les items, hein, vous les aurez, vous pourrez regarder ça, si ça vous intéresse. Non, là, on est au cœur de la notion de compétence, hein, et avec l'idée que pour une compétence, il y a un niveau. Pourquoi je vous prends cet exemple de communication ? C'est que si vous êtes en train de monter une licence et que vous mettez... Alors, bien sûr, je ne prends pas l'exemple d'une licence qui serait dans le domaine des langues, mais je prends une licence qui serait dans un autre domaine. Si vous dites capacité à communiquer dans au moins une langue étrangère en licence, ok, ben vous n'allez pas pouvoir écrire la même chose en master, parce que capacité à communiquer dans au moins une langue étrangère, si vous n'avez pas la notion de niveau... Vous voyez que ben, la compétence, elle ne correspond à rien. Elle n'est pas assise sur une certification des compétences. Et ça, c'est le deuxième mot que je voulais mettre, vraiment. Si vous allez conduire cette approche-là de mettre vos diplômes en compétences, si vous ne dites pas derrière comment j'étaye ma compétence, comment je le certifie, comment je l'évalue, ben, ça ne sert à rien. Puisqu'il faut vraiment que, vous, et c'est mes collègues qui vous parleront beaucoup plus de ça, après, une compétence, elle doit être certifiée, elle doit être attestée. Ok, je vous ai mis derrière un joli, magnifique tableau qu'il a aussi. Hein, comment ça a été traduit maintenant dans le cadre européen de certification, plus près de nous ? Eh bien, ce cadre européen de certification, et là aussi mes collègues vous en parleront plus, maintenant la France a adopté le cadre européen, qui est un cadre à 8 niveaux. Avant, on avait un système à 5 niveaux. Pour ceux qui sont beaucoup versés dans la formation continue, ça avait des niveaux 1, 2, 3, qui étaient numérotés depuis le haut, depuis le master doctorat, c'était niveau 1. Le cadre français, il existait avant le cadre européen. Mais le cadre européen était à 8 niveaux et la numérotation passe dans l'autre sens. Et donc maintenant, le niveau 8, c'est le doctorat. D'ailleurs, un grand intérêt de ce cadre, c'est qu'il y a une différence entre master et doctorat. C'est plus le même niveau, alors qu'avant, dans l'ancien système, master-doctorat, vous aviez un diplôme qui était répertorié au même niveau. Okay. Donc voilà, vous pourrez regarder ça, mais c'est la même chose, sauf que c'est une idée de compétence. Mais là, vous voyez que j'ai trois colonnes. Avec les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Hein, voilà, ça a appelé savoir, attitude, compétence en termes de prise de responsabilité et d'autonomie, mais ça correspond un petit peu à ça. Et vous voyez que pour chaque niveau, hein, si vous pourrez lire ça, ça vous appellera à aller lire la version complète, mais vous avez une gradation entre les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire. Voilà, donc on va passer à la diapositive suivante. Donc pour cette fois-ci, voilà, vous dire que, donc je vous ai parlé du contexte international, européen, maintenant le contexte national. Donc c'est une exigence de lisibilité de l'offre de formation, vous en avez parlé dans la question de l'orientation, hein, de qualité des formations, d'engagement en faveur aussi d'une dimension sociale, parce qu'on va aussi prendre en compte, par exemple, les acquis d'un étudiant qu'il a pu avoir dans un cadre associatif, il a pu développer des compétences qui sont importantes pour votre diplôme, et puis une question de développement personnel et professionnel tout au long de la vie. Alors il y a plein de textes, ouais, très vite, en un seul pavé, qui ont rythmé ça. Hein. Les textes du LMD, ça date depuis 2002. Les référentiels des mentions de licence, on en parle beaucoup maintenant, mais les premiers référentiels de mentions de licence, on est en 2006. La version actuelle, elle date de 2015. Et c'est vrai qu'on les regarde de manière un peu distante jusque-là. Et maintenant, mes collègues vous expliqueront comment il y a vraiment, de leur point de vue, vraiment une obligation du niveau de la formation continue. 2017, c'est reconnaissance de l'engagement étudiant dans la loi pour l'égalité et la citoyenneté, donc qui est une obligation et qui rentre complètement dans cette démarche. La loi Or en 2018, un nouvel arrêté licence. Hein, vous savez que dans l'arrêté licence, on parle de modalités de contrôle des connaissances et des compétences. Donc ça veut dire qu'il faut attester de ces compétences-là. C'est pas simplement une connaissance. Hein, il va falloir connaissance. C'est assez facile à tester. Hein, vous savez, vous pouvez l'attester de plein de manières. Je vais dire au plus simple entre guillemets, un QCM, vous testez des connaissances. Vous testez pas des connaissances, hein, ou des compétences. Vous testez des connaissances avec un QCM, hein, ou de la restitution mnésique comme ça. Si c'est un QCM. Ensuite, il y a des QCM, des crocs, des choses qui vont être un petit peu plus évoluées. Vous allez, etc. Mais tester une situation, une compétence en situation, ça, vous n'allez pas pouvoir le faire par du QCM. Je dis pas qu'il faut pas le tester, ça. Hein. J'ai jamais dit qu'il fallait pas faire de QCM et qu'il fallait pas. On s'appuie sur des connaissances, c'est évident. Mais à chaque objectif, il va y avoir des modalités d'évaluation. J'ai rien enlevé. J'ai pas dit que le cours magistral, c'était pas bien. J'ai pas dit que les QCM, c'était pas bien. Ça correspond à des objectifs, c'est tout. Et en 2019, donc, un arrêté de l'année qui fixe des critères associés au niveau de qualification du cadre national. Hein, c'est en 2019 qu'on est rentré dans ce système à 8 niveaux. On va donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ce cadrage, on va essayer de voir si, en cliquant sur le lien, c'est quoi une compétence. Alors, je ne sais pas, parce que je n'avais pas fait la demande avant d'aller cliquer sur le lien qui s'appelle « Définition de la compétence ». On va voir si ça ouvre... Ah non, c'est pas ça. C'est le lien qui était en haut. C'est le lien qui était en haut de la page, c'est pas celui qui était... Parce que sinon, alors Jacques Tardif, le nom a été cité tout à l'heure, c'est un chercheur canadien qui est vraiment passionnant et qui... Il ne se passe rien en cliquant sur ce lien-là, celui qui est à côté du nom de Jacques Tardif, je ne sais pas, où vous irez cliquer dessus en 2 minutes. Il vous explique la différence entre un savoir agir et une compétence. Comment une compétence, c'est pas simplement un savoir-faire. C'est pas un savoir-faire, c'est un ensemble de savoir-faire mis en situation. Donc l'ouverture du lien marche vraiment pas, non ? Non, dommage. Donc c'est un savoir-agir complexe, un savoir-faire complexe qui va prendre appui sur la mobilisation, la combinaison efficace de plein de capacités, de ressources internes et externes dans un ensemble de situations. Et donc ça va être important, parce que quand vous allez définir quelles sont les compétences au sein de mon diplôme, il n'y en a pas 50 au sein de vos diplômes. Les compétences, elles sont en nombre beaucoup plus restreint que ça. Donc il faut sortir de savoir ce qu'est un savoir-faire quelque chose d'assez limité, d'assez restreint, et de ce qui est vraiment la compétence, c'est-à-dire la capacité à embrasser vraiment un problème et à résoudre un problème. C'est ça. Bon, lui, il le dit en 2 minutes, de manière, je trouve, assez convaincante. Voilà. Puis vous avez plusieurs définitions, mais retenons l'idée d'un savoir-agir qui est complexe, qui correspond à plusieurs familles de situations. Pardon, la diapositive suivante, si vous voulez. Alors, pourquoi passer en approche par compétence ? Donc, pour donner du sens aux apprentissages, pour les étudiants, pour nous aussi d'ailleurs, peut-être pour réenchanter des fois un petit peu le métier, pour permettre à l'étudiant donc, de construire une trajectoire de développement professionnel. Et alors, souvent, on a des conceptions qui sont un petit peu erronées et qui nous disent non, on ne veut pas y aller parce que ça ne marche pas. Et souvent on se dit, attention, la théorie doit précéder la pratique, sinon c'est pas forcément toujours. On a aussi l'idée que susciter des apprentissages morcelés va permettre des fois de mieux structurer l'apprentissage. Des fois j'entends ce genre de remarques et c'est faux, enfin la recherche montre que c'est faux, parce que c'est pas simplement une conviction que moi qui vous assène ça comme ça aujourd'hui. Et Jacques Tardif fait partie de ceux qui ont vraiment fait des travaux là-dessus. Et souvent, on pense que les compétences, ça va pouvoir se développer que dans des stages. Et que ça peut pas se développer finalement en dehors de ces situations-là. Et en fait, tout ça montre que c'est faux. On peut développer des compétences dans des activités autres que les stages à l'université. Bien sûr, on se développe pleinement dans une activité professionnelle. Alors j'ai un petit peu, je fais une allusion à ça, tout à l'heure je parlais des QCM par exemple, mais ça me faisait penser à ça. 3 notions essentielles, donc la mémorisation, c'est pas vraiment un apprentissage, moi je suis biologiste, en termes cognitifs, la mémorisation c'est pas un apprentissage, parce que d'ailleurs ça va s'en aller très vite, il y a plein d'études qui ont été faites, qui ont été montrées par exemple par Marc Romainville, qui est un chercheur belge, où on avait demandé à des étudiants de repasser un examen le lendemain du jour où ils ont passé l'examen. Alors déjà, il y en a la moitié qui n'ont pas voulu le faire. On leur a dit non, mais c'est juste une étude scientifique, ça ne sera pas noté dans votre dossier, nulle part. D'ailleurs, à la limite, il n'y aura pas votre nom. On regarde la moyenne de la promo, donc on s'en moque. Bon, la moitié n'ont pas voulu. Et l'autre moitié ont montré que tout s'était effondré. C'est la note s'était complètement effondrée. Le lendemain de l'examen, c'est-à-dire que vous avez vraiment vidé la boîte, hop, et on passe à l'examen d'après. Enfin, il y a plein d'études qui l'ont montré, mais en particulier il y a Marc Revinville, il y a plus de 15 ans. Et donc la mémorisation, ce n'est pas un apprentissage, ça ne laisse pas de traces profondes. Et voilà, vous avez vidé la boîte, vous avez... Ok, l'étudiant, il a un job à faire, c'est-à-dire passer un examen, avoir une note, il fait le job, mais en fait, il a vidé le tiroir après. Ça s'appelle les savoirs volatiles. Deuxième point, un apprentissage est significatif, donc que s'il est profond, et il ne peut pas être inné. Et la motivation, c'est une des conditions indispensables à l'apprentissage. Ça aussi, les bases de la pédagogie universitaire nous montrent ça. Donc l'idée, dans l'APC, c'est de motiver et d'avoir des apprentissages qui vont être profonds, qui vont être durables. Tous, en tant qu'enseignants, on se dit « mince, mais c'est moi qui ai fait le cours le semestre d'avant, ils ont tout oublié ». Ils ont tout oublié, peut-être parce qu'ils avaient fait simplement des apprentissages volatiles. Donc, en approche par compétence, on espère, c'est effectivement de franchir ça, dépasser ça. Voilà, donc Diapositive suivante. Donc la différence entre une approche court standard, on va dire, une approche par compétence, c'est qu'on va intégrer les compétences au lieu d'avoir un fractionnement des choses. On va essayer d'avoir des activités qui vont être situées vraiment en continuité, en complémentarité. On va contextualiser les activités plus qu'on ne le fait en approche court. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas du tout en approche court. Le but est de le faire plus, davantage. Alors, en approche court aussi, ouais, je voudrais simplement expliquer un mot. On a tendance, j'ai tendance, moi aussi, hein, à vouloir faire du bourrage de crâne, un petit peu, ce que j'ai appelé la couverturite. C'est-à-dire, voilà, il y a telle notion qui est nouvelle, il faut absolument la savoir, elle est très importante. Et c'est vrai qu'elle est très importante. Mais moi, j'essaie de prendre du recul un petit peu, et je ne vous mens pas, dans mon domaine de biologie moléculaire, ce que j'enseigne, en fait, le plus, ce que je fais, ce que j'ai appris, moi, en, je n'exagère pas, un an de biologie moléculaire au niveau licence, enfin à l'époque L3, mais enfin au niveau licence à l'époque, ce que j'ai appris moi en une année, je l'enseigne maintenant en 3 heures à peu près, 3-4 heures. Ben oui, parce qu'il y a plein de choses qui se sont accumulées depuis. Et après je dis, mais les étudiants, mais ils savent plus, enfin voilà, mais ils sont nuls en fait. Mais non, ils sont pas nuls. J'ai essayé de leur faire apprendre, je leur ai rien appris, on n'apprend jamais rien aux étudiants, on essaie de leur faire apprendre en 3-4 heures ce que moi j'ai mis un an à acquérir. Et pensez, je pense que dans vos disciplines, c'est peut-être pas vrai dans toutes les disciplines, mais c'est sûrement vrai dans beaucoup de disciplines, dans la mienne, et voilà, on veut faire de la couverturite. C'est-à-dire, on veut essayer de dire plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Et je pense qu'il faut essayer de lutter par ça. Et donc, dans l'approche par compétence, c'est vrai qu'il faut faire le deuil de la couverturite. Ça va prendre plus de temps. C'est évident. Et donc, mais l'espoir derrière, c'est que les étudiants auront compris une démarche scientifique, par exemple, et qu'ils pourront acquérir beaucoup plus de choses par eux-mêmes. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas tout couvrir. Ça, je vous le concède. Voilà. Et donc, l'étudiant qui travaille en approche court, dans une approche photo, il voit tac, une série de cours. L'idée, hein, pour vous donner une image, c'est qu'il soit dans une approche plutôt vidéo, hein, qu'il essaie plus de faire du lien entre les choses. Et on a un étudiant qui est souvent passif en approche court, et en approche par compétence, on va lui demander, au contraire, d'être complètement actif, d'être complètement au cœur de ses apprentissages, de traiter l'information, de faire des propositions, et aussi, parfois, de contribuer à s'auto-évaluer, et de développer, par exemple, une démarche portfolio. Pour la diapositive suivante, on va la passer, mais bon, vous l'aurez, je m'aperçois que je parle trop. Alors, il va falloir s'approprier le référentiel de compétences pour construire les activités. S'approprier le référentiel de compétences, pourquoi je dis s'approprier ? Parce que si vous êtes en licence, les référentiels de compétences, vous n'avez pas à les construire. Ils existent, il y a des fiches RNCP, et vous n'avez pas à réinventer quelque chose. Vous devez coller, hein, vous l'approprier. Alors, ça veut dire quoi s'approprier à ce référentiel de compétences ? Je crois que j'ai mis une vignette pour illustrer ça. Voilà. Dire attention, voilà, le référentiel de compétences, c'est ce qui va être effectivement au cœur de ce que vous allez faire, mais vous allez pouvoir quand même rentrer dedans, vous l'approprier. Vous l'approprier, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ça veut dire, vous n'avez pas, cette première étape, elle est faite. Hein. Définir les compétences majeures, c'est fait pour la licence, hein, par exemple, c'est écrit. Donc, vous n'avez pas à aller retravailler tout ça. Mais ensuite, vous allez au point 2, vous allez définir les composantes essentielles de chaque compétence. Quelles connaissances vous mettez derrière ? Quel savoir-faire que vous mettez derrière ? Quel savoir-être ? Et bien sûr, pensez tout de suite à leur évaluation. Quand vous êtes dans cette démarche par compétence, comment je vais tester ça ? Ça, c'est vraiment, si vous retenez qu'une chose de ça, de mon exposé, pensez tout de suite quelles compétences et comment je vais l'évaluer. Ensuite, vous allez définir donc ces situations d'apprentissage ou les situations bon, professionnelles, ça dépend dans quelle formation vous êtes, qui rendent compte de l'étendue de cette compétence. Définir les niveaux de développement, je vous en parlais tout à l'heure avec l'exemple des langues. Hein, est-ce que vous êtes novice ou bien à un niveau intermédiaire ou niveau où vous êtes complètement compétent ? Définir les apprentissages critiques, vraiment, pour atteindre le niveau, quelles sont les étapes par lesquelles on va devoir passer pour arriver à ce niveau de compétence. Et bien sûr, définir les ressources qui vont vous permettre de mettre l'étudiant, de fournir à l'étudiant, de le mobiliser, de le mettre en action. Donc, voilà. Ce référentiel, il existe, mais derrière, il y a quand même tout le travail à faire de dire comment moi je vais aller coller à tout ça. Donc, et à la fin, la question que vous voulez vous poser, c'est, une fois que vous avez fait tout ça, est-ce que vous vous engageriez ce diplômé dans votre entreprise, par exemple, à partir du référentiel de compétences ? Est-ce qu'à la fin, voilà, est-ce qu'il est capable de réaliser tel élément ? Et est-ce que finalement, j'ai essayé de fournir tout pour que je puisse attester de cette compétence-là. Donc, première étape, s'approprier le référentiel de compétences. Et deuxième étape, donc, s'assurer que les compétences sont bien développées à travers le cursus de formation. Hein, donc, bon, je vais passer un petit peu vite parce que je vous l'ai déjà dit, en fait, finalement, tout ça. Hein, des fois, j'anticipe un petit peu. Voilà. Et une notion, c'est la notion de l'alignement pédagogique. Alors, donc, pour comment on va évaluer les choses. Alors, j'aime bien l'alignement pédagogique pour ceux qui n'ont jamais entendu parler. Ce petit exemple, il est tout bête. Hein. Si votre objectif pédagogique, votre objectif d'apprentissage, c'est sauter en parachute. Derrière, effectivement, à la fin, vous avez bien choisi la bonne modalité d'évaluation puisque c'est sauter en parachute. Donc ça, vous avez bien aligné les deux choses, mais si au milieu, vous n'avez pas aligné les activités, c'est-à-dire si vous dites, ben voilà, entraîne-toi, lis le manuel, il est probable que l'étudiant, là, il va se cracher. Donc ce qu'il va falloir aligner, c'est à la fois vos objectifs d'apprentissage, tout ce que vous mettez en situation, tout ce que vous allez lui faire faire pour développer la compétence, et derrière, effectivement, évaluer correctement la compétence. Donc ça, c'est au cœur de l'approche par compétence, hein. C'est l'alignement des objectifs, des activités et de l'évaluation. Sur la diapositive suivante, je vais passer parce que je pense que Jean-Louis Gougeux en parlera, hein, de dire repérer les compétences dans une maquette existante. Et alors, bien sûr, pour faire tout ça, il y a un truc qui est essentiel, si je vous dis retenez deux choses, l'alignement pédagogique et travailler en équipe. Donc, il faut que ça ne se fait pas tout seul. C'est pas vous au sein de votre UE qui pouvez faire ça. C'est vraiment une démarche de diplôme. Et donc, travailler ensemble sur la vision du diplômé, ses compétences à faire émerger, sur la progression des acquis, parce que ça n'est pas au sein de votre seul UE qu'on va développer des compétences. Je prenais l'exemple des langues tout à l'heure. Tenez, c'était pas mal finalement cet exemple des langues. Ça, vous ne devez surtout pas dire, alors je ne parle pas bien sûr des licences de langue, des masters de langue, etc. Bien sûr, ce n'est pas au sein simplement de l'UE de langue, vous ne pouvez pas dire ça, délégué en disant, ouais ok, bon, ils ont des cours d'anglais, hein, c'est bien. Non, bien sûr, c'est votre, si vous êtes... Je ne sais pas, si vous êtes juriste, si vous êtes physicien, bien sûr, vous pouvez faire des exposés de physique en anglais et vous faites partie de ceux qui évaluent la compétence de communiquer dans au moins une langue étrangère. Donc, les compétences, au travers de cet exemple, voyez, elles se développent dans plusieurs domaines disciplinaires. Vous ne devez pas déléguer une partie en disant, voilà, ça, c'est la communication, par exemple, ça ne m'intéresse pas, il y a des profs de communication, il y a des profs de langue, etc. Donc, c'est bien un travail d'équipe. Sur le choix des modalités d'évaluation aussi, parce que vous allez évaluer dans votre UE la compétence de telle manière-là, mais c'est bien de savoir qu'un autre collègue qui travaille sur la même compétence, hein, dans la discipline d'à côté, c'est peut-être pas la peine de faire le même type d'évaluation. Peut-être il peut l'évaluer d'une autre manière. Donc même sur les modalités d'évaluation, c'est intéressant de travailler ensemble, et bien sûr sur les situations d'apprentissage qui peuvent être d'ailleurs aussi pluridisciplinaires. Et bien sûr, tout ça dans le cadre de l'autonomie des établissements, de la responsabilité de chaque équipe pédagogique. Il n'y a pas un guide, il n'y a pas une manière de faire, on ne va pas vous imposer quelque chose. Mais donc dans le cadre d'une démarche qualité, parce que qui dit « je suis autonome » dit quand même « j'ai un objectif à la fin d'avoir une formation de qualité ». Donc c'est de la responsabilisation, hein, liberté mais responsabilisation. Enfin, pour terminer, donc comment obtenir, je vous laisserai regarder ça, mais comment obtenir une preuve d'apprentissage, quelle modalité d'évaluation choisir? Voilà, ça dépend si vous êtes du côté du savoir, du savoir-être ou du savoir-faire, hein, donc cognitif, affectif, psychomoteur, et si vous voulez des apprentissages en surface, ou intermédiaire ou en profondeur, ça dépend du niveau. Il n'y a rien de péjoratif dans en surface, hein. C'est une question de niveau en fait, hein. Et voilà, et donc quel type de ce que vous attendez, hein, si c'est de la rétention simplement, la cognitif en surface, c'est de la rétention d'informations ou de la compréhension ou de la réflexion, ça dépend de votre niveau. Et derrière, vous pourrez sur la diapositive suivante, vous voyez, il y a une petite idée, c'est les travaux de Denis Berthiaume, hein, que je cite ici, un collègue suisse, hein, dit, voilà, par exemple, ça n'est pas du tout exhaustif, hein, mais, vous voyez, ce qu'on teste avec le niveau, le cognitif, affectif ou psychomoteur, le niveau, ben voilà, derrière, de type de dispositif d'évaluation. Pour finir, ça c'est l'idée, je vous donnerai de grilles critériées, en tout cas, que pour juger d'un niveau d'acquisition, un outil très, très intéressant, c'est une grille critériée. Ça, c'est une grille critériée, vous l'aurez à titre d'exemple, hein. Elle vaut rien, c'est moi qui l'ai faite, hein. Il n'y a pas de copyright dessus, je veux dire. C'est l'exemple comment je juge un exposé scientifique fait par des étudiants autour d'un thème qu'ils ont complètement développé, hein. Et voilà, on a mis une série de critères, on a développé cette grille avec des collègues. des grilles critériées, vous en trouverez plein internet, mais voilà comment à chaque fois on met pour dire voilà, j'attribue tant de points à par exemple respect de ce qu'on avait dit en termes de temps, etc., de qualité de communication, ben voilà, plutôt que ce soit au doigt mouillé, on a vraiment des choses comme ça. Donc la notion de la manière d'évaluer est vraiment importante dans la question de la compétence. Voilà. Bon, ça, c'est un petit truc sur le portfolio, je ne vous en parlerai pas, mais c'est une manière aussi d'auto-évaluer, s'auto-évaluer pour les étudiants. Donc, voilà, en conclusion, la démarche compétence, c'est répondre à des objectifs de processus de Bologne. C'est ensuite, vous pouvez développer la liste des puces hein, et répondre à l'employabilité des étudiants. C'est aussi, hein, vous pouvez peut-être faire cliquer sur toutes les puces, hein, instrumenter une approche pédagogique de valorisation des compétences, rendre les étudiants acteurs, accompagner cette transformation pédagogique en favorisant la formation tout au long de la vie. C'est travailler en équipe pédagogique. Retenez ceci, là aussi j'ai mis une petite vignette, parce que l'équipe pédagogique c'est une notion... pardon, il y a une petite diapo après, une illustration pour marquer un peu les esprits. C'est que l'équipe pédagogique, malheureusement, souvent... C'est ça, moi qui en ai dirigé une, hein. C'est des fois un petit peu dur à fédérer, mais je crois que là, il y a un bel objet ensemble, hein, se lancer dedans. Ça ne marche qu'en équipe pédagogique, mais je pense que c'est un beau sujet pour collectivement se souder, bien comprendre ce qu'on fait et quel objectif. Donc, fédérer ces équipes pédagogiques. Et puis, voilà, en conclusion, entre l'approche cours et l'approche par compétences, vous avez l'étudiant au cœur du processus et pas l'enseignant. Et l'enseignant, c'est celui qui va accompagner, guider, créer des situations. L'apprenant, c'est celui qui va vraiment s'investir dedans. Et la preuve de la réussite, c'est plus simplement de la rétention, mais la capacité, des fois, à aller jusqu'à transférer des apprentissages. Voilà, je pense que ça doit être la diapo à la fin de... Voilà. Et le dernier point là, que je voulais rajouter, ça fera plaisir peut-être à Pierre. Il y a un item derrière. C'est que tout ça, il faut disposer de systèmes d'information, d'environnement numérique de travail adapté, c'est-à-dire des plateformes qui supportent tout ça. Peut-être qu'ils font des learning analytics, hein, qui vont chercher les traces d'apprentissage des étudiants pour vous renseigner où ils butent, ils accrochent bien par contre. Hein, et donc, il va nous permettre d'aider à hybrider, flexibiliser nos diplômes, etc. dans une logique de formation tout au long de la vie. Voilà. Je vous remercie. Voilà.